Vous avez de l'aide. La semaine dernière a été une excellente semaine avec les enfants. Avant la semaine, quelques personnes m'ont dit « J'ai un peu de temps cette semaine et j'aimerais aider. Comment puis-je aider ?» Et il y avait effectivement certaines tâches spécifiques dont j'ai parlé avec eux. Mais j'ai aussi dit « Venez simplement. Je ne sais pas encore de toutes les façons dont nous aurons besoin d'aide, mais je suis sûr que nous aurons besoin de votre aide cette semaine. » Et ces personnes sont venues et elles ont aidé de façon que nous n'aurions pas pu prévoir. Ce matin, alors que nous continuons dans Jean 14, j'aimerais que nous réfléchissions à cette idée d'aide. Nous lirons ce matin que le Seigneur nous a donné de l'aide en tant que croyants. La question est, savez-vous que cette aide existe? Savez-vous comment utiliser cette aide? Et j'imagine que la plus grande question est, croyez-vous vraiment en l'aide que Dieu vous a donnée?
C'est ce que je veux examiner ce matin, donc si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Jean 14. Au cours des deux dernières semaines, nous avons étudié ce qu'on appelle le discours de la chambre haute dans l'Évangile selon Jean. Il s'agit d'un ensemble d'enseignements que Jésus a donné à ses disciples autour du dernier repas, la nuit avant sa crucifixion. Il y a deux semaines, nous avons vu Jean 13, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples et leur a enseigné l'amour et le service. La semaine dernière, dans Jean 14, Jésus a parlé aux disciples de l'espérance du ciel et du fait qu'il est le chemin vers le ciel. Ce qui nous amène au verset 15. 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Dans Jean 13, Jésus a donné une illustration de son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds.
Et maintenant, il parle de leur amour pour lui.
Qu'en obéissant à Jésus, ils l'aiment.
Maintenant, ce n'est pas un reproche de la part de Jésus. Jésus ne cherche pas à nous culpabiliser, il énonce simplement des faits. Un reproche serait comme un mari disant à sa femme « Si tu m'aimais vraiment, tu m'achèterais cette toute nouvelle télévision. » Ça, c'est de la culpabilisation, c'est de la manipulation. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il se contente d'énoncer un fait. Si quelqu'un l'aime, il lui obéira. Ce serait comme dire, « Si tu as faim, tu mangeras. Si tu as soif, tu boiras. » Il n'y a pas de culpabilité, ce n'est qu'un fait. Il dit la même chose dans les versets 21 à 24. Permettez-moi de vous y amener tout de suite.
21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifestes à nous et non au monde?
23. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est la même idée qu'au verset 15. Celui qui garde ses commandements aime Jésus, et Jésus se manifestera à lui. Celui qui ne garde pas ses commandements n'est manifestement pas son disciple et n'aime pas Jésus.
Quand j'étais un croyant plus jeune, j'ai traversé une crise spirituelle concernant l'amour de Dieu. Jésus a dit que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, selon Jésus, le plus grand commandement, au-dessus de tous les autres, est d'aimer Dieu de tout ce que nous avons. Mais la question que je me posais sans cesse était, est-ce que je fais vraiment cela? Est-ce que j'aime véritablement Dieu? J'ai donc regardé tous les versets bibliques du Nouveau Testament qui parlent d'aimer Dieu. Je les ai tous mis dans un seul document. Et j'ai cherché le mot « amour » en grec,
la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. J'ai ensuite essayé de comprendre comment ce mot était utilisé dans différents contextes. Je voulais savoir ce que cela signifiait d'aimer Dieu.
Parce que, dans mon esprit, j'associais principalement l'amour pour Dieu à l'émotion.
J'ai des émotions, comme nous tous, mais je ne suis pas de ces personnes qui pleurent 5 fois par jour. Et lorsque je pensais à aimer Dieu, j'imaginais quelqu'un rempli d'émotions, qui se mettrait à pleurer chaque fois qu'il penserait à l'amour de Dieu. Et je savais que je n'étais pas vraiment comme cela. Alors je me demandais, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Mais quand j'ai commencé à examiner de nombreux passages des Écritures qui parlent d'aimer Dieu, j'ai été surpris par ce que j'ai découvert. Parce que j'ai compris que l'une des principales manières d'aimer Dieu, c'est tout simplement de garder ses commandements. 1 Jean 5 est tellement clair. Voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. C'est comme une boucle. Nous aimons Dieu en gardant ses commandements. Quels sont ses commandements? L'aimer. Comment puis-je l'aimer? En obéissant à ce commandement.
Mais, bien sûr, le plus grand commandement n'est pas le seul commandement. La Bible est remplie de commandements et d'enseignements sur la manière de suivre le Christ dans notre vie quotidienne. La Bible regorge de versets qui nous disent comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Et cela devrait être notre attitude lorsque nous obéissons à Dieu. Notre attitude ne devrait pas être « Bon, je n'ai pas envie de faire cela, mais Dieu dit que je dois le faire. Je dois obéir à ses commandements. » Ce n'est pas une obéissance joyeuse. C'est une obéissance sans joie. Ce n'est pas la véritable image de l'obéissance dans la Bible, ni la bonne vision des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous conduire vers la vraie vie, telle que Dieu voulait qu'elle soit vécue.
La vie chrétienne consiste en une obéissance joyeuse. Vous aimez Jésus en obéissant à ses commandements parce que vous comprenez que la voie de Dieu est la meilleure façon de vivre pour vous, afin que votre joie soit complète. Comme le dit un auteur, le véritable amour se manifeste par une obéissance volontaire. Ainsi, lorsque Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », ce n'est pas pour culpabiliser, c'est juste un fait.
Mais au verset 24, il a aussi dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ».
Ces paroles ici sont aussi un signal d'alarme. Regardez, vous pouvez dire à tout le monde que vous aimez Dieu, mais si vous ne gardez aucun de ses commandements, si vous ne marchez pas dans ses voies, alors ce que Jésus dit ici, c'est que, peu importe ce que vous pensez, en réalité, vous n'aimez pas Dieu. Bien sûr, Jésus parle ici en termes généraux. En tant que croyant, il y a des moments où nous désobéissons à Dieu et où nous devons nous repentir et suivre Jésus. Cela arrive. Je ne pense pas que c'est de cela que Jésus parle ici.
Il parle de quelqu'un qui vit à sa façon, qui suit ses propres règles, qui fait ce qu'il veut, même si cela va à l'encontre des commandements de Dieu. Cette personne, dit Jésus, ne m'aime pas. Cette personne n'a pas de communion avec Dieu. Peu importe combien de fois elle dit aux autres qu'elle aime Dieu. Peu importe combien de fois elle se dit à elle-même qu'elle aime Dieu. Le véritable amour se manifeste par une obéissance volontaire. Vis-tu pour Dieu? C'est ainsi que tu sauras si tu aimes vraiment Dieu. Maintenant, tu pourrais dire, je veux faire cela. Je veux obéir à Jésus. Je veux garder ses commandements. Je veux vivre pour lui. Mais je suis faible. Je veux le faire. Je ne pense juste pas en être capable. Est-ce que je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît? Le verset 16 nous donne une bonne nouvelle. 16, et moi, je prierai le Père, et il lui donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Souvenez-vous du contexte. Jésus venait tout juste de dire aux disciples qu'il allait les quitter. Il irait à la croix pour mourir pour nos péchés, serait enseveli, mais ressusciterait d'entre les morts et partirait pour être avec Dieu le Père. Ainsi, il allait quitter les disciples. Mais il leur dit, « Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un autre consolateur. » Jésus était leur aide, maintenant il enverra un autre. Le mot grec ici est « parakletos ». Certains traduisent ce mot par « conseiller », « consolateur » ou « avocat ». L'idée principale de ce mot est d'être aux côtés de quelqu'un, pour l'aider. Qui est ce consolateur? Verset 17, l'Esprit de vérité. Jésus parle du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, et notre Dieu unique existe en trois personnes, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ne sont pas trois dieux, au contraire, ils sont un seul Dieu, existant en trois personnes. Ils sont tous Dieu. Ils sont un en essence et en substance. Mais ils sont distincts les uns des autres.
Donc Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas le Saint-Esprit, ni Dieu le Père. Le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas Jésus, ni Dieu le Père. Comme je l'ai dit, ils sont des personnes distinctes. Ils accomplissent des tâches différentes, comme nous le voyons dans la Bible. Dans le livre des Actes, nous voyons de nombreux exemples de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous trouvons de longues explications sur les dons du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Galates, nous comprenons davantage le fruit de l'Esprit. Mais Jean 14, 17 nous donne peut-être la théologie la plus approfondie concernant le Saint-Esprit. Même ces deux versets, 16 et 17, nous apprennent beaucoup sur le Saint-Esprit. Si nous n'avions que ces deux versets, nous saurions déjà beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Alors, que pouvons-nous savoir? Premièrement, tu as de l'aide. La première chose que Jésus dit ici à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il est ton aide. Il vient à tes côtés. C'est une vérité toute simple, mais je pense que nous pouvons facilement l'oublier parfois.
Il y a quelques semaines, il y avait des choses qui s'accumulaient dans mon esprit. Des inquiétudes, des préoccupations, des problèmes. Et je pouvais sentir leur poids sur moi. Alors j'y ai pensé. Je m'en faisais à leur sujet. J'essayais de trouver des solutions, mais rien de tout cela ne fonctionnait. Rien de tout cela ne m'aidait. Finalement, après beaucoup trop de temps, j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit. Ce n'était pas une longue prière. J'ai simplement prié, aide-moi. Et au moment où j'ai prié, je me suis immédiatement senti plus léger. Cela ne veut pas dire qu'à ce moment-là, tous mes problèmes ont disparu ou que tout a été réglé. La raison pour laquelle je me suis senti plus léger, c'est que j'ai réalisé que tout ne dépendait pas de moi. J'ai réalisé que j'ai un aideur. Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé l'aide du Saint-Esprit? Si tu ne retiens rien d'autre de ce sermon, j'espère que tu te souviendras d'une chose cette semaine lorsque tes problèmes s'accumuleront et pèseront sur ton esprit. Dieu t'a donné de l'aide. Jésus t'a donné l'aideur, le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'essayer de tout faire par toi-même.
Tu as de l'aide, et tu n'as pas besoin d'avoir une séance de prière de 2 heures pour accéder à cette aide. Tu peux y accéder simplement en priant 2 mots d'une syllabe. Aide-moi. C'est tout. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, deuxièmement, tu as de l'espérance. Jésus dit que le Saint-Esprit, l'aideur, sera avec toi pour toujours, avant le jour de la Pentecôte. Nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre, mais après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter dans les croyants pour toujours. Ce n'est pas une aide temporaire. C'est une aide permanente. Cette aide ne vient pas, puis ne repart pas. Non. Tu peux compter sur l'aide du Saint-Esprit pour toujours. Éphésiens 1 dit que lorsque nous devenons croyants, nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il vient résider dans nos vies. Et il nous aide à mener la vie à laquelle Dieu nous a appelés.
nous marchons par l'Esprit, ce qui décrit notre vie quotidienne de foi.
Donc tu n'as pas à vivre cette vie seule. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir si aujourd'hui tu auras le Saint-Esprit et que demain tu ne l'auras pas. Tu peux avoir l'espérance et la certitude que l'aideur est avec toi pour toujours. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jésus leur dit qu'il s'en va, mais il précise qu'il ne les laisse pas seuls. Il dit « Je viens à vous ». Certains pensent qu'ici, il parle de la venue du Saint-Esprit, comme il l'a mentionné quelques versets plus haut. Mais ici, il s'agit très probablement de la résurrection à venir. Il n'apparaîtra plus au monde comme il le fait à ce moment-là, mais lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à ses disciples et à ceux qui le suivaient.
Et il parle aussi de l'espérance de la résurrection.
Jésus leur dit, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Ils comprendront enfin pleinement que Jésus est Dieu fait chair, que le Père était en lui et qu'il demeure en ses disciples. La résurrection a tout changé. Je suis sûr que les disciples étaient tristes pendant que Jésus leur annonçait qu'il allait les quitter. Il ne fait aucun doute qu'ils étaient tristes en le voyant crucifié sur la croix. Mais lorsqu'ils ont découvert qu'il était ressuscité d'entre les morts, ce deuil s'est transformé en danse, cette tristesse en joie. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. C'est pourquoi nous avons été rendus vivants en Christ. Comme dit le vieux cantique, « Parce qu'il vit, je peux affronter demain. Parce qu'il vit, toute crainte s'envole. Parce que je sais qu'il détient l'avenir, et que la vie vaut la peine d'être vécue, simplement parce qu'il vit. » Nous avons déjà lu les versets 21 à 24. Passons maintenant au verset 25.
25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit aux disciples, « Je vous dis toutes ces choses maintenant, mais vous ne vous souviendrez pas de tout, ni ne comprendrez tout cela en ce moment.
Mais l'Esprit Saint vous enseignera toutes ces choses et vous aidera à vous rappeler tout ce que j'ai dit. »
Troisièmement. Vous avez la direction. Encore une fois, le Saint-Esprit est présenté comme notre aide.
Le Saint-Esprit vous aide dans votre foi.
Comment?
Il vous enseigne.
Il vous aide à apprendre les vérités spirituelles,
et il vous aide à vous souvenir des vérités spirituelles.
Vous est-il déjà arrivé de lire votre Bible et de vous arrêter parce que vous ne compreniez pas quelque chose? Ou peut-être essayez-vous de vous rappeler un certain verset?
Mais vous n'arriviez tout simplement pas à vous en souvenir.
Aujourd'hui, il nous est facile de sortir nos téléphones
et de trouver l'information que nous cherchons ou que nous n'arrivons pas à nous rappeler. Et l'Internet est une ressource que nous pouvons utiliser pour trouver certaines réponses.
Évidemment, les disciples n'avaient pas cet outil à l'époque.
Et même s'il est normal de se rappeler que nous avons cet outil, vous êtes-vous déjà arrêté pour prier et demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre?
Vous êtes-vous arrêté pour prier et demander au Saint-Esprit de vous aider à vous souvenir de certains versets bibliques?
Je me souviens que, lorsque j'étais plus jeune, je suis allé voir mon pasteur pour lui demander conseil. Et il m'a donné de très bons conseils.
À la fin, je lui ai demandé, « Comment sais-tu toutes ces choses? Comment savais-tu quoi dire? Comment savais-tu quel verset biblique utiliser pour m'encourager ?»
Et il m'a répondu que, tout le temps où nous parlions, il priait pour que l'Esprit lui donne les mots à dire.
Et il priait aussi pour que l'Esprit le guide vers le bon verset biblique à partager.
Le Consolateur est là pour vous.
L'invoquez-vous pour obtenir de l'aide lors de conversations spirituelles?
Faites-vous appel à son aide lorsque vous lisez votre Bible?
Il est là et prêt à vous aider.
Un autre point sur le verset 26. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit, Jésus utilise le pronom « il » au lieu du pronom « cela ». Il est important de noter que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, comme dans le film Star Wars. En réalité, il est une personne. Nous parlons souvent d'avoir une relation avec Dieu ou une relation avec Jésus. Mais nous avons aussi une relation avec le Saint-Esprit. Nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit a des émotions. Il peut être attristé. Il a une volonté. Le Saint-Esprit n'est pas une chose ou une force mystique, mais une personne. Il se tient à vos côtés. Et il est là pour vous aider dans votre parcours de foi. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point.
Le quatrième point que je veux tirer de ce texte est 4. Vous avez la paix. Jésus nous donne une paix surnaturelle en lui. Ce n'est pas une paix que ce monde peut donner. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde et vous sentir quand même vide. Vous pouvez être la personne la plus belle du monde et vous sentir quand même anxieux. Vous pouvez avoir tout le pouvoir du monde et être quand même dans l'insécurité.
Parce que le monde ne peut pas vous donner la paix spirituelle que Jésus vous donne.
Le monde ne peut pas vous donner la paix avec Dieu. Et c'est la paix avec Dieu que tous nos cœurs désirent. Jésus vous donne une paix qui transcende tout. La paix qui dépasse toute intelligence. En d'autres termes, c'est une paix qui n'a pas de sens pour le monde.
Le monde se demande, comment pouvez-vous avoir la paix quand vous êtes malade? Comment pouvez-vous avoir la paix quand vous perdez votre emploi? Comment pouvez-vous avoir la paix quand vous avez du mal à trouver un travail? Comment pouvez-vous avoir la paix lorsque votre avenir est incertain?
La réponse est que vous avez une paix surnaturelle qui vient de Jésus-Christ.
Vous avez la paix avec Dieu, c'est pourquoi vous pouvez avoir la paix au milieu des tempêtes de la vie. Jésus lui dit, « N'ayez pas peur. Ne soyez pas troublés car vous avez une paix qui vient d'en haut. »
28. Vous m'avez entendu vous dire, « Je m'en vais et je reviens vers vous. »
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi.
29. Et maintenant je vous l'ai dit avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez.
Jésus continue à parler de sa relation avec Dieu le Père. Et il dit quelque chose au verset 28 qui a dérangé certaines personnes dans l'histoire. À savoir que le Père est plus grand que lui.
Cela signifie-t-il que Jésus est une sorte de version inférieure de Dieu?
Si l'on sort ce verset de son contexte, quelqu'un pourrait essayer de le prétendre.
Mais dans le contexte de Jean 14, Jésus a beaucoup parlé de sa relation avec Dieu le Père, de leur habitation mutuelle, et ainsi de suite. Alors que veut dire Jésus?
Nous savons que lorsque Jésus est venu sur terre, il s'est dépouillé lui-même et est devenu comme un serviteur, comme il est dit dans Philippiens 2.
Pendant un certain temps, Jésus a été exposé à un monde rempli de douleurs, de mort et de souffrance.
Dieu le Père, lui, ne l'a pas été.
Dieu le Père ne s'est dépouillé de rien. Il a continué de régner au ciel.
C'est pourquoi Jésus dit aux disciples qu'ils devraient se réjouir de ce qu'il retourne vers le Père.
Jésus retourne à la gloire. De plus, il y a un sens dans lequel un Père est toujours plus grand que son Fils. Que ce soit en tant que chef ou en tant qu'autorité, cela sera toujours ainsi.
Donc, quand Jésus dit que le Père est plus grand, il ne dit pas que le Père est plus Dieu que lui. Il dit simplement qu'ils ont des rôles différents.
Ce n'est pas parce que mon Fils est mon Fils qu'il est moins humain que moi.
Nous sommes tous deux également humains.
Cela signifie simplement que nos rôles sont différents.
Dernier verset.
30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien sur moi.
31. Mais j'agis comme le Père m'a commandé, afin que le monde sache que j'aime le Père.
Levez-vous, partons d'ici.
il y a une application immédiate de ces versets, dans le sens où Judas est sur le point de trahir Jésus. Donc, ils ne peuvent pas parler beaucoup plus longtemps, parce que les événements de la crucifixion sont sur le point d'avoir lieu. Mais Jésus leur dit que même s'il va à la croix, tout est encore sous contrôle. Il y a un plan. La vie de Jésus n'a pas été prise de lui. Ce n'est pas que lorsqu'il est allé à la croix, Satan était en train de gagner et Dieu de perdre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Jésus dit que Satan n'a aucun droit sur lui. Le diable ne peut pas forcer Jésus à faire quoi que ce soit. Au contraire, Jésus est allé à la croix, comme Dieu le lui avait commandé, afin que le monde connaisse son amour. Jésus est allé à la croix à cause de la joie qui lui était réservée.
Dans Jean 10, Jésus a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » La vie de Jésus ne lui a pas été ôtée, non. Il a donné sa vie. Pourquoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions de mourir à cause de notre péché. Mais Jésus, sur la croix, a accepté volontairement la punition à notre place. Au lieu que tu reçoives la colère de Dieu pour le péché, Jésus l'a prise pour toi sur la croix.
Ésaïe 53 dit que « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, et il l'a fait par amour. »
Comme il a dit à ses disciples, il s'en est allé, mais il est revenu. Il est ressuscité d'entre les morts, et après être ressuscité du tombeau, il est reparti au ciel. Mais il nous a aussi promis qu'il reviendra. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, il t'a envoyé un secours. Il ne t'a pas laissé seul.
Il t'a envoyé un secours. Et à cause de cela, tu as de l'aide, tu as de l'espérance, tu as de la direction, et tu as la paix.